Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'écouter ta parole, d'entendre, Seigneur, ta voix encore aujourd'hui. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ton esprit agisse au milieu de nous, que nous puissions recevoir ta parole, l'accepter, Seigneur, afin de vivre selon elle, Seigneur. Et vivre tes promesses aussi dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de ce lieu. Nous chassons tout esprit de fatigue, de distraction, d'assoupissement. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à être attentifs, Seigneur, à recevoir ta parole avec humilité, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. Au chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Corinthiens 12, à partir du verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare au peuple de Corinthe. Et l'apôtre Paul parle de cet homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel et qui a eu part à des expériences spirituelles très importantes. Et il dit que on pense qu'il parle de lui en disant cela. Et au verset 6, il dit, eh ben, je ne voudrais pas, en parlant de ces choses, que vous ayez une opinion trop grande pour moi. Pourquoi? Parce que un homme, généralement, lorsqu'il fait des expériences de l'au-delà, souvent les gens sont attirés à écouter, à entendre ce qu'il a à dire. Quelque part, c'est comme si cet homme devient un peu supérieur parce qu'il a vécu des choses qu'un autre n'a pas vécues. Et les gens sont intéressés, sont parfois fascinés d'entendre des histoires. On voit des gens, même parmi les païens, lorsque quelqu'un fait l'expérience d'une mort imminente et qu'il revient, il raconte ces choses, les gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui ne croient pas en l'au-delà, eh ben, veulent quand même savoir ce qui se passe. Et ils sont curieux de cela. Et ça met la personne qui a vécu ces choses sur une position plus ou moins élevée. Parce qu'elle a vu, elle a reçu, elle a eu une expérience que les autres n'ont pas eue. Et l'apôtre Paul dit, eh ben, cet homme-là a fait ces expériences-là. Mais il dit, même si on enlève ces expériences-là, il dit, moi, je pourrais parler de moi, je pourrais me glorifier de ce que j'ai fait, des œuvres que j'ai faites. Et nous connaissons tous le ministère de l'apôtre Paul par rapport aux révélations qu'il a eues sur les Écritures, sur l'explication de la parole de Dieu. Aux Juifs, aux païens, on se rappelle même qu'un jour, Paul a repris même Pierre. Paul a reçu des révélations excellentes. Il ne s'est pas marié, mais il explique des choses sur le mariage. Il explique des choses tellement extraordinaires. On lit le Nouveau Testament, quasiment à la moitié. C'est lui qui a écrit sous l'inspiration du Seigneur. Le Seigneur l'a utilisé pour écrire toutes ces choses-là. Et toutes ces choses sont des sujets, parfois, qui font perdre la tête d'un homme. Dans Actes 20, il est dit que Paul prêche et c'est tard la nuit. Otichus, qui est assis sur la fenêtre, s'endort, il tombe. Paul arrive et il dit à ces gens, « Ne vous inquiétez pas, son âme est avec lui. » Il prie pour le jeune, cette personne, la personne revit. Et Paul dit, « Eh ben, s'il y a sujet à se glorifier, eh ben, moi, je peux me glorifier. Je peux raconter tout ce que le Seigneur a fait avec moi. Je peux raconter toutes ces choses. » Et nous arrivons au verset 7, c'est ça le thème de notre exhortation. Verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Il dit, en dépit de toutes les révélations qu'il a eues, de tout le travail qu'il a pu faire, l'autorité que le Seigneur a mise sur lui pour travailler, faire son œuvre, aller de ville en ville, il dit que Dieu a mis une écharde dans sa chair. Et pourquoi ? La réponse est là, il dit, afin de ne pas tomber dans l'orgueil, afin de rester les pieds sur terre. Lorsque Dieu travaille, Dieu, on nous a prêché plusieurs fois là-dessus, Dieu est glorieux, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Lorsqu'on sert le Seigneur, ce n'est pas avec notre force qu'on le sert. C'est sa force, c'est sa puissance à lui qui se manifeste. Et quand elle se manifeste, elle va même au-delà de tout ce que nous, en tant qu'humains, on peut espérer. Il arrive parfois qu'on dise une simple parole à une personne, mais cette parole-là a parfois un effet grave, grand dans la vie de la personne qui nous écoute. Et au vu de toutes ces choses-là, on peut vite se dire « Ah, voilà, j'ai bien parlé. Voilà, j'ai bien prêché. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. » Et Paul dit, malgré toutes les révélations, toutes ces choses qu'il a eues, Dieu a équilibré les choses. Il a mis une écharpe dans sa chair. Il a mis quelque chose dans sa chair qui fait que, lorsqu'il y pense, il remet le pied sur terre. Il se rappelle qu'il est humain. Il se rappelle qu'il n'est pas Dieu. Il se rappelle que la gloire seule doit revenir à Dieu. Il se souvient de ses faiblesses. On se souvient lorsque Dieu appelle Moïse. Dieu parle à Moïse, il dit « Va, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Va parler à Pharaon. » Moïse dit « Mais pourquoi moi ? En plus, j'ai la langue embarrassée, je ne sais même pas parler. » Dieu aurait pu trouver quelqu'un qui savait parler. Il y avait Aaron qui était à côté. Mais lorsque Dieu travaille, Dieu équilibre. Puisqu'il sait que sa gloire, lorsqu'on la gère mal, elle peut être une occasion de chute. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit, cet homme peut se glorifier. Je pense qu'il parle de lui, de toutes les choses qu'il a pu faire, voir avec le Seigneur. Mais Dieu a permis qu'il ait une écharde. Il a permis qu'il ait les pieds sur terre. Une écharde, selon le dictionnaire, communément parlant, c'est un corps étranger qui entre dans la peau. Souvent, ceux qui travaillent avec le bois, ils savent ce que c'est. Et ce corps étranger-là est gênant. Il dérange. Il dérange à chaque fois lorsque, parfois, on touche, on se rappelle, « Ah, il y a quelque chose à l'intérieur. » C'est cela. Et quelle était cette écharpe ? Il y a un débat dans le milieu chrétien. Certains pensent qu'il avait des problèmes de vue. Certains pensent qu'il avait des maux de tête. Mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que Dieu ait mis une écharde. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est les échardes dans nos vies. Dans notre marche avec le Seigneur, il y aura aussi des choses que le Seigneur va mettre pour nous pousser à prier, pour nous pousser à nous humilier, pour nous pousser à nous rappeler que nous sommes petits, pour nous pousser toujours à rendre gloire à Dieu. C'est ça le but de Dieu. Nous lisons Paul, ce qu'il dit de son écharde. On pense que ça ne devait pas être très agréable. Nous lisons dans Galates 4 et nous gardons notre page 2 Corinthiens 12. Galates 4, Paul parle de son écharde. Il dit, Galates 4, à partir du verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. On peut s'arrêter là. Voilà ce que Paul dit au peuple de Galates. Il dit que je suis venu parmi vous et vous n'avez pas manifesté un dégoût vis-à-vis de moi. Et lui-même, il parle d'infirmité. Alors, pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'on sache? Dieu a ses raisons, que Dieu soit béni. Mais l'enseignement ici, c'est pour nous dire que Paul avait une difficulté en lui, peut-être physique, qui pouvait se voir, comme il dit, vous n'avez pas éprouvé un dégoût. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'était pas caché, c'est quelque chose qui était visible. Il y a des infirmités parfois que les gens peuvent cacher en mettant des vêtements amples, en mettant parfois des talonnettes sous les chaussures, en camouflant les choses. On peut cacher, on passe inaperçu. Parfois, difficulté de parler, parfois, de bégayement, il y a toutes ces choses-là. Alors, pour ne pas être gêné, on préfère se cacher. Mais là, non seulement cette difficulté qu'il avait été visible, mais en plus, il devait servir le Seigneur constamment, être devant les gens, prêcher. Et je pense qu'à chaque fois, il devait penser à ça pour dire, « Ah, Seigneur !» Et c'est ça la prière qu'il fait. Il dit à Dieu, « Mais Seigneur, trois fois j'ai prié pour que le Seigneur enlève. » Donc c'est comme si il devait se dire, « Mais Seigneur, mais fais que je sois guéri, que je n'ai plus ce problème pour être plus efficace pour toi. » Dieu lui dit, « Non, tu n'as pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est que tu annonces ma parole, tu fasses mon travail, c'est tout. » Et parfois, c'est ce qui nous arrive aussi. On voudrait que la situation soit impeccable pour prêcher Jésus. On voudrait être en bonne santé pour dire « Jésus guérit ». Mais l'apôtre Paul lui-même, il dit, on lira plus tard dans 2 Corinthiens 4, il dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ma condition à moi que je prêche. Ce n'est pas parce que moi je suis malade que cela va être un obstacle, va m'empêcher de prêcher Jésus. Ce n'est pas parce que moi je suis alité, parce qu'on connaît le raisonnement humain. Le raisonnement humain, c'est dire « Oui, mais toi tu es malade, tu es mal en point et tu veux parler aux autres. » Soigne-toi d'abord toi-même. C'est ce que le brigand a dit à Jésus à la croix. Il a dit, mais sauve-toi, sauve-nous aussi. Et parfois, et bien souvent même, Dieu va permettre des échardes dans nos vies, mais avec des objectifs. Dieu va permettre cela avec des objectifs. Et comme on a lu, je pense que pour Paul, ça devait être gênant. Pas au point de l'empêcher de servir Dieu, mais pour le confort de sa vie, ça devait être quand même gênant. Il dit aux Galates, vous n'avez pas été dégoûté de me voir. Si c'était possible que vous arrachiez vos yeux pour me le donner, vous auriez pu le faire. Mais Dieu n'a pas permis cela. Dieu a permis que je le serve malgré tout, malgré mon infirmité, malgré le problème, le handicap que j'ai, Dieu a permis que je le serve. C'est cela. Les échardes dans nos vies. L'écharde, ça peut être une maladie. On a prié, on a vu les médecins, on a fait tous les soins qu'il faut. On a fait tout ce qu'il faut. Je me rappelle une période par rapport aux allergies au pollen. J'ai fait des sensibilisations, je ne sais pas comment ça s'appelle, chez des spécialistes, des rendez-vous sur rendez-vous, des traitements à prendre, des choses à prendre. Et parfois, on est fatigué, on est dégoûté. Surtout l'été, le nez est pris. On dit, mais Seigneur, comment je veux te servir? Dieu dit, non, tu n'as pas besoin. Si tu peux ouvrir la bouche, tu peux ouvrir la bouche pour me glorifier. Ça suffit. Et Dieu permet parfois des échardes dans nos vies pour qu'il y ait l'équilibre. Pour qu'on se souvienne, on dit, ah oui, Seigneur, toi seul es grand. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'écharde, c'est peut-être une maladie récurrente qui revient, qui ne nous empêche pas de vivre. Nous vivons. Mais on aimerait quand même être dégagé, libéré de cela. Mais Dieu, lui, il estime que ce n'est pas gênant. Alors il laisse les choses ainsi. L'écharde, c'est peut-être un entourage qu'on aimerait bien changer. Le mari est païen, la femme est païenne. Les enfants, on aimerait bien changer, faire que tout soit parfait pour être libre, à l'aise pour servir Dieu. Dieu sait qu'en arrivant à ce point-là, on va se dire, ah oui, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis converti, j'ai parlé à ma femme, elle s'est convertie, j'ai parlé à mes enfants, ils se sont convertis, et finalement, c'est à nous la gloire. Dieu le sait. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que les gens se convertissent. Dieu veut que tout le monde se convertisse. Mais parfois, Dieu va permettre qu'il y ait des situations pour nous rappeler que nous sommes petits. Je me rappelle le témoignage d'un évangéliste, un serviteur de Dieu, qui, à l'époque, je ne sais plus ce qu'il en est actuellement, il faisait des grandes campagnes d'évangélisation en Afrique. Des très grandes campagnes. Et lui-même, il se retrouvait même bloqué dans les embouteillages que lui-même, il causait. Il n'arrivait même pas à aller dans les réunions tellement que les rues étaient pleines à craquer. Et il témoigne, il dit, dans ces campagnes, il y a des musulmans qui venaient déposer leurs fétiches, des sorciers, parfois c'était 800 000, beaucoup de personnes qui se donnaient à Jésus. Mais il dit au fond de lui, il y a quelque chose qui le maintenait humble, c'est que son propre frère, son petit frère, il refusait Dieu. Nous voyons le contraste. D'un côté, la même personne, Dieu agit puissamment au travers d'elle. De l'autre côté, son propre frère est un grand opposant de Dieu. Il a des arguments contre Dieu. Il dit, quand je vois cette foule-là, je suis content de voir que les gens se donnent au Seigneur. Mais quand je rentre chez moi, dans mon cœur, j'ai la tristesse. Parce que je me dis, mais Seigneur, je travaille. Tu m'envoies faire tout ce travail. Mais j'aimerais aussi que mon frère dans la chair puisse te connaître. Il dit, Dieu permet cela pour qu'il puisse s'humilier davantage, qu'il comprenne que ce n'est pas lui, un tel, qui fait ce travail efficace, mais c'est Dieu qui est tout-puissant. Il dit lui-même, je prie parfois pour des personnes qui sont paralytiques, qui marchent. Il dit moi-même, il met des lunettes, il mettait des lunettes à l'époque, il dit moi-même, j'ai mal aux yeux, et la vue va en baissant. Nous voyons un petit peu ce que Dieu fait. D'un côté, il t'utilise pour faire des choses pour sa gloire, grande. Mais de l'autre côté, toi-même qui fais ces choses-là, il dit, moi-même j'ai la vue qui baisse. Et il dit, Dieu permet ça pour que je puisse toujours continuer à m'agenouiller. À dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les échardes dans nos vies. Dieu permet cela pour équilibrer, nous remettre les pieds sur terre, comme on a dit. Dieu appelle Moïse. Moïse dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu savait, je pense qu'il savait. Il savait, Moïse avait un bon cœur. Moïse aimait Dieu. De ce qu'on dit de Moïse avec Dieu, c'est extraordinaire. Mais Dieu le chasule, il dit, mais Seigneur, regarde, j'ai un défaut. J'ai un défaut. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de parler. Mais Dieu fonctionne comme ça. L'écharde, c'est parfois quelque chose que Dieu te demande de faire. Eh bien, au fond de toi, tu sais qu'il y a ça, mais ça te dérange, ça t'embête. Quand tu y penses, tu deviens triste. En fait, ta joie n'est plus totale. Quand tu penses à cette chose-là, tu dis, ah. L'écharde, c'est l'épreuve. Une difficulté que Dieu permet dans nos vies. Chaque fin du mois, c'est toujours ric-rac. Dieu permet cela pour qu'on comprenne qu'en réalité, si on vit, ce n'est pas parce qu'on travaille. En réalité, si on peut manger, ce n'est pas parce qu'on a une bonne organisation, on a fait les courses du mois, avec tel jour, tel... Dieu veut nous faire comprendre que ce n'est pas ça. Si on mange, c'est parce que c'est lui qui nous donne. C'est lui qui pourvoit. Les échardes dans nos vies. Dieu le permet avec un objectif. Nous lisons l'exemple d'un homme dont on fait un portrait qui est, lorsqu'on, si on pouvait prendre une photo, c'est le portrait est tellement parfait. Mais cet homme avait un problème. Nous lisons 2 Rois. C'est une histoire que nous connaissons. Deux Rois au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Voilà ce qu'on nous dit de Naaman. Naaman jouissait d'une grande considération de tout le monde, du peuple et même de son roi, parce que c'était un homme vaillant. C'est par lui que l'Éternel a délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. L'écharde de Naaman, c'était la lèpre. Il était fort. Il était vaillant. Il était grand. Il avait une bonne réputation. Il jouissait de la faveur, du bon témoignage de tout le monde. On parle de Naaman, on dit oui, c'est notre héros, c'est lui, l'homme fort. Et la Bible dit qu'il y a un problème. C'est que Naaman, cet homme fort, vaillant, était lépreux. Et la lèpre, c'était une maladie qui condamnait à la mort. Les lépreux, c'était des gens qui étaient mis dans des camps spéciaux. Et il n'y avait plus qu'à attendre la fin de leur jour. Il était condamné. C'est cela. L'écharde est là pour nous rappeler que sur la terre, le bonheur n'existe pas. Le bonheur n'existe pas. Regardons l'actualité. On voit un candidat de la droite qui est passé pour le candidat de la probité. L'homme sérieux. Tout le monde le décrit comme étant un homme de rigueur, sérieux. Aucune affaire. 30 ans de vie politique. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Je pense qu'à la fin de la primaire de la droite, il s'est dit, c'est fini, je suis président de la République. Il n'y a même plus besoin de faire les élections parce que je suis président. Effectivement, lorsqu'on voit pour ceux qui suivent un petit peu la politique, tout le monde disait, bon, c'est cadeau. Voilà, il a un boulevard, comme son adversaire a dit. Il a un boulevard. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Aujourd'hui, celui qui avait le boulevard, aujourd'hui, voilà, il est aux abois. Je suivais l'histoire qu'on a fait sur Steve Jobs, le patron d'Apple, qui est décédé à 56 ans. 7 milliards de dollars de fortune. Voilà que le cancer arrive. Et avant sa mort, il parlait, il disait, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit des choses, j'ai inventé des choses. Aujourd'hui, Apple, c'est une des marques, sinon la plus grande dans le monde. Il dit, mais la maladie m'a fait comprendre qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie. C'est d'être entouré par ceux qui nous aiment. D'être entouré par sa famille. Pourtant, cet homme-là, je pense que quand il se déplaçait, il était même comme un chef d'État, comme le président américain. Partout où il allait, les gens devaient l'encenser pour dire « Ah oui, c'est toi, c'est toi !» L'écharde, c'est la mort, la pensée de la mort. Quand on pense qu'un jour... on mourra. Pour nous, chrétiens, nous nous réjouissons. Mais imaginons les gens du dehors, les païens. Un homme comme Steve Jobs, là. 7 milliards dans le compte. Tu sais que tu es condamné à mourir d'ici 3 jours, 4 jours. Tu ne peux pas être heureux. Tu n'es pas heureux. Tu vis, mais tu ne vis même pas, tu survis, parce que tu ne peux même pas profiter de ce que tu as, parce que tu sais que là, je vais mourir. Dieu permet les choses ainsi pour qu'il y ait l'équilibre. Un côté, tu as la gloire. Un côté, tu es grand, tu es fort. De l'autre côté, tu te rappelles que, ah, mais toutes ces choses-là, c'est ce que la Bible dit. Hein. Dans le livre de Luc, on parle de cet homme insensé qui se réjouissait en disant, oh, mon âme, réjouis-toi. Tu as bien travaillé. Maintenant, tu vas pouvoir profiter de tout ce que tu as fait. Et la Bible dit qu'une voix se fit entendre pour lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera reprise et tout ce que tu as amassé, qui va profiter? C'est cela. Dieu permet ces choses pour nous rappeler que nous sommes sur la terre. Président de la République, tu es incapable de te représenter parce que tu sais que personne ne veut de toi. On voit, il est à l'Élysée, mais ces gens, ils ne sont pas heureux, ils sont tristes. Les chardes, c'est la vieillesse. Quand l'homme pense que je veux vieillir, on fait tout pour retarder au maximum. Mais quand on y pense quand même, on sait que, ah là, je veux vieillir. Même si on arrange, on tire le visage comme un masque, le cœur, on ne va pas le changer. Les poumons, on ne va pas les changer. C'est cela. Et on dit que cet homme, Naaman, était fort, il était grand, il était vaillant, un grand guerrier, mais il avait un problème. Et ce problème le rendait faible. Faible à tel point qu'il a dû écouter les conseils d'une servante, d'une esclave juive qui était dans sa maison. L'esclave parle à sa maîtresse en disant « Mais pourquoi il souffre ainsi ? Je pense que si Naaman était dans ses beaux jours, fort, est-ce qu'il aurait même le temps d'écouter le conseil de cette fille-là ? » Nous lisons cette histoire-là, nous lisons, nous continuons. Verset 2. « Les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. » Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, mon Seigneur, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et des vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine. » Et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et je guérirai. Et il guérira le lépreux. Voilà cette histoire. On nous dit que Naaman finalement va voir le prophète. Et comme c'est écrit, donc il avait fait son plan. Il a dit, comme je ne suis pas n'importe qui, eh ben, je vais avec des présents, je vais en fonction de mon rang. Et je pense que lui, quand il va entendre qui je suis, eh ben, il va se précipiter pour venir. Et là, Dieu, le prophète, envoie son serviteur pour lui dire, va lui dire d'aller se laver. Et là, il est en colère. Il est en colère, mais il ne sait pas qui je suis. Donc Naaman, quand il vient pour acheter sa guérison. Il vient pour acheter, pour revenir à sa condition initiale de l'homme parfait. Mais Dieu va jusqu'au bout pour l'humilier. Son serviteur, qu'on n'a pas lu, lui dit, « Mais maître, mais si cet homme t'avait demandé quelque chose de dur, de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Mais voilà qu'il te demande quelque chose de si simple. » Et finalement, il est parti, il s'est lavé, il a reconnu que l'Éternel, le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Il est revenu voir le prophète pour lui dire, « Voilà, là je vais repartir, mais daigne ton Dieu, puisse ton Dieu me faire grâce parce que là où je veux partir, mon maître va adorer des faux dieux. Et il s'appuie sur moi pour adorer ces faux dieux. » Le prophète lui dit, « Vas-y en paix. » Mais Dieu a fait un travail. Au travers de l'écharde qu'il avait, la maladie qu'il avait, la lèpre qu'il avait. Peut-être que Naaman était arrivé à un certain niveau où il n'était plus un homme comme les autres. Mais Dieu va toujours équilibrer, comme l'apôtre Paul dit. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, le Seigneur a permis que j'ai les chardes. Et quand je me souviens, je prie même pour ça, Dieu me dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Je t'ai donné l'essentiel, ma grâce te suffit. C'est cela, les chardes dans nos vies. Dieu permettra qu'il y ait des situations qui sont comme des échardes. Maintenant, le but de Dieu, ce n'est pas de nous voir souffrir d'une situation. Le but de Dieu, ce n'est pas cela. Dieu nous aime, amen. Dieu nous aime. Mais s'il permet cela, premièrement, donc la question c'est, pourquoi Dieu permet des échardes dans nos vies? Et la réponse, elle est toujours dans 2 Corinthiens. Et nous avons un petit peu parlé de ça déjà. 2 Corinthiens 12. Pourquoi Dieu permet des échardes dans nos vies? Pour nous rappeler que l'homme n'est rien. Ce sont des choses que nous connaissons. Ce sont des choses que nous avons entendues. Mais comme on a dit, parfois, l'homme se surprend des exploits qu'il fait lui-même. L'homme, parfois, il arrive des fois, une situation se présente. Le Seigneur fait grâce, tu gères la situation et toi-même, tu es surpris. Parfois, les gens qui sont autour de toi disent, « Waouh, quelle sagesse! Waouh, quelle intelligence !» Toi-même, tu es surpris de ce que Dieu fait. Et parfois, rapidement, eh ben on peut prendre la place de Dieu et l'Éternel éclaire. Ésaïe 42, 8, on va lire ça. Ésaïe 42, 8, c'est Dieu qui parle. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Je suis l'Éternel, je ne donne ma gloire à personne. À personne. Donc Dieu permet des échardes dans nos vies pour nous rappeler que nous, humains, nous ne sommes rien. Comme le nouveau chant que les hommes apprennent. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Et ce chant dit, parfois nous prétendons connaître des choses. Parfois nous prétendons même atteindre Dieu, c'est ce qui s'est passé avec la tour de Babel. L'homme, voyant qu'il a des capacités de construire, de faire des choses, il s'est dit, bon, dans ce cas, l'union fait la force. Donc, on va se mettre ensemble, on va construire une tour et on va toucher Dieu. On va rivaliser avec lui. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui avec la construction de l'Union européenne. Mais on voit que ça s'effrite. L'Angleterre qui est sortie, on voit que l'homme, il se met ensemble et dit, bon, on va travailler et ensemble, on sera puissant. Et là, la Bible dit, Dieu dit, Ésaïe 42:8, il dit, je suis l'Éternel. Je ne donnerai ma gloire à personne. Pas aux idoles, ni à aucun homme. C'est cela. Dieu permet cela pour qu'on se souvienne que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. L'apôtre Paul lui-même, il parle. 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit que nous sommes comme des vases d'argile, mais nous possédons un trésor à l'intérieur. Il dit, chaque fois nous sommes accablés, chaque fois nous sommes persécutés, chaque fois nous sommes mis en pâture. Nous souffrons tous les jours, mais il dit, mais le Seigneur est toujours là. Mais dans toutes ces difficultés-là, il se rappelle que l'homme en réalité n'est fait que de poussière, l'homme est argile. Et un vase d'argile, c'est quelque chose qui peut être dur, mais ça se casse, c'est fragile. C'est cela. Dieu permet qu'il y ait ces échardes pour qu'on se souvienne. Que la gloire ne lui revienne qu'à lui seul. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Parfois, on se dit, Seigneur, si j'avais la voix comme un tel, oh, je te servirais. Dieu dit, c'est faux. C'est faux. Si tu avais la voix comme un tel, peut-être que tu serais peut-être sur des chaînes MTV en faisant des clips. Dieu va dire non, mais comme je t'aime, je vais te donner autre chose. Comme ça, dans le corps, ça va. Tu pourras travailler dans le corps, tu vas balayer. Seigneur, si j'avais. Dieu dit c'est faux. Puisque Dieu sait qu'il veut, c'est qu'on se souvienne que nous ne sommes rien du tout. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, j'ai été devant vous en état de faiblesse, inspirant même un dégoût dans l'infirmité. Mais Dieu lui dit, ma puissance à moi se manifeste lorsque toi tu es petit, tu es faible. C'est cela. Dieu permet les échardes pour nous rappeler cela, que nous sommes petits. Que nous ne puissions pas nous considérer comme quelqu'un. On a vu des grands hommes, des grands présidents mourir. Parfois de maladies. Certains même comme des animaux alors qu'ils ont été des dictateurs dirigeant leur pays de main de fer. Et lorsqu'on voit ça, on se dit vraiment, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Mais comme on a dit, l'homme oublie. Il se dit, bon, là, ça a été le cas de l'autre. Moi, je suis plus malin. Moi, je m'en sortirai. Mais le Seigneur veut nous rappeler que les situations, quand je parle des chardes, ce sont des situations qui nous dérangent. Ce sont des situations qui nous dérangent. On a prié pour une situation. Parfois, les choses vont en s'empirant. Lorsqu'on y pense, il y a comme une tristesse, mais Dieu ne veut pas qu'on soit dans la tristesse, non. Dieu veut qu'on s'attende à lui, qu'on ait foi en lui, qu'on fasse confiance en sa justice. Qu'on fasse confiance en sa justice. Paul était sincère lorsqu'il priait. Il criait à Dieu, mais Seigneur, peut-être que je serai plus efficace en étant bien, en bonne forme, je serai plus... Dieu lui dit non. Moi, je veux que les choses restent ainsi. Afin que la gloire ne te revienne pas à toi, mais que la gloire me revienne à moi seul. C'est cela. Pourquoi Dieu permet les échardes? Nous lisons au verset 8, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dieu permet qu'on vive, qu'on connaisse des situations qui sont comme des échardes dans nos vies, afin de nous reposer sur sa grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on nous fait, un cadeau immérité. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé pour avoir. La grâce, c'est aussi le fait de, parfois, le contraire de la grâce, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Parfois, on fait les choses, on fait bien les choses, on travaille bien, on a des félicitations, on prépare bien les choses, on chante bien, on a des félicitations. En fait, c'est en quelque sorte notre performance, notre potentiel qui travaille pour nous et on reçoit des félicitations. Et la grâce, c'est le fait que je chante bien, que je chante faux, mais que je chante avec le cœur. Ben Dieu se manifeste dans cela. C'est ça que le Seigneur veut. Il nous dit, ce n'est pas parce que tu chantes bien, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé, mais c'est seulement parce que moi, j'ai choisi de t'utiliser comme ça. C'est moi qui ai choisi comme ça. Lorsque Moïse dit à Dieu, mais pourquoi moi? Gédéon dit à Dieu, mais pourquoi moi, je suis un petit? Regarde, Seigneur, dans ma famille, je suis petit. Dans ma tribu, je suis petit. En Israël, nous sommes petits. Dieu lui dit, oui, mais c'est toi le vaillant héros, c'est toi. Peut-être que les autres sont grands, mais les autres n'ont pas le souci que toi tu as. Le souci que tu as manifesté dans la prière, eh ben les autres ne l'ont pas. Alors moi, je te choisis, toi. C'est ça. On part, mais d'un côté, il y a un certain handicap humain qu'on ne peut pas nier. Quand Moïse dit à Dieu, j'ai du mal, Dieu dit, bon, on va prendre ton frère Aaron, il va venir avec toi. Donc quand Moïse, allez, il parle à Pharaon, avec Aaron, chaque fois, il voit des choses qui se produisent, je pense que le peuple était là, Pharaon lui-même était étonné, eh ben, le fait qu'il se rappelle qu'il y a Aaron qui est là, que lui seul, il ne peut pas travailler, eh ben, ça le ramène les pieds sur terre pour dire, ah oui, j'ai besoin de mon frère, c'est cela. Dieu permet qu'il y ait des échardes pour qu'on se repose sur sa grâce. Qu'on dit, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné. Parfois, on jeûne comme des religieux. Je connais un jeune au foyer qui, lui, c'est systématique. Quand on lui dit, tu as rendez-vous au conseil départemental, il commence à jeûner. Le rendez-vous passe, c'est bon. Tu as rendez-vous à l'hôpital, il commence à jeûner. Je dis, mais toi, tu jeûnes chaque fois que tu as des rendez-vous. C'est la peur ou c'est Dieu? Il dit, non, nous, c'est comme ça. Là où j'étais en Afrique, c'était comme ça. Voilà. Et quand il va au rendez-vous, il fait des choses, ça se passe. Bon, lui, pour lui, se dit quoi? Donc, ah là, j'ai bien jeûné. La prochaine fois, je vais faire la même chose. Et le Seigneur dit à Paul, non, ma grâce te suffit. En quelque sorte, le fait que je sois avec toi, Paul, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'être fort, grand, non. Le fait que tu sois comme tu es, la faible, moi, ça me permet maintenant de me manifester. Et c'est là que Paul maintenant dit, voilà pourquoi je me glorifie maintenant de l'écharde, donc ce qui était pour moi un handicap, parce que je voyais ça comme quelque chose de gênant, une infirmité qui pouvait peut-être me faire honte. Parfois même, il y avait des faux frères qui devaient critiquer Paul pour dire, mais s'il est de Dieu, regardez comment il est, regardez comment il souffre. En plus, il y a la prison, il y a tout ça. Mais il a compris finalement que, ah oui, Dieu permet tout ça pour que je sois faible. Quand on se moque de moi, quand on m'humilie, quand on me calomnie, quand on me diffame, ainsi la gloire reviendra à Dieu seul. Voilà pourquoi il arrive à dire, voilà, moi je vis, pour moi mourir même est un gain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, parce que s'il fallait que je prenne ma vie au sérieux, que à mon honneur, il dit, j'aurais été malheureux depuis longtemps, tellement que j'ai vécu trop d'épreuves, de déconvenues. Il dit, Dieu a permis tout ça pour que je meure à moi-même. Que je sois même considéré comme un faux, ce n'est pas grave. Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur, et le plus important, c'est que je sois approuvé du Seigneur. Amen. Dieu permet les échardes pour qu'on puisse vivre à sa grâce. Parfois, l'écharde, c'est l'injustice qu'on peut vivre au quotidien. Alors plutôt que de se plaindre, plutôt que de bouder, de faire aussi le méchant, l'autre te parle mal, tu dis bon, je vais l'attendre aussi au tournant. Non, Dieu dit non, laisse, accepte, meurs. Fais comme si tu n'étais plus là. Mais de l'autre côté, la situation te rappelle aussi que, ah, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Pourquoi Dieu permet les échardes? Troisième point, c'est toujours écrit, l'apôtre Paul dit, j'ai prié. Le Seigneur. Dieu permet les échardes pour que nous puissions chercher sa face, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions nous humilier. Et quand on dit prier, prier c'est parler à Dieu, ça nous le savons. Mais quand on dit prier ici, c'est, je pense qu'on nous a exhorté une fois sur la prière, le fait de, l'exemple c'est l'exemple de Anne. Anne allait au temple à cause de son problème qui l'a dérangé. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle allait régulièrement au temple. Elle priait. Elle priait. Elle revenait chez elle. Elle partait, elle priait. Et un jour, Anne a prié. Elle a fait la prière qui plaisait à Dieu. Et la prière dont on parle ici, c'est, comme on nous avait exhorté, c'est une prière où on devient un avec Dieu. La pensée de Dieu, ça devient la pensée que le Seigneur nous inspire dans notre cœur. Anne dit à Dieu, « Seigneur, je voulais peut-être un fils pour que Pénina, ma rivale, pour que Elkana, mon mari, voit que je suis aussi capable d'enfanter. » Parce que mettons-nous dans le contexte du Moyen-Orient et de l'Orient, ou l'Afrique, une femme qui n'enfante pas, eh ben, elle subit beaucoup de persécutions de la belle famille, parfois même de sa propre famille. Et ce jour-là, elle a prié, elle a dit, « Seigneur, donne-moi un fils et je te le consacrerai. » En quelque sorte, j'accepte d'être tout simplement l'instrument, le fils que je voulais pour moi, eh ben, j'accepte d'être l'instrument par lequel tu vas passer pour faire un serviteur pour Israël. C'est cela. Paul, lorsqu'il a prié, il dit, j'ai prié à 3 reprises. On nous a prêché là-dessus. Quand on dit 3 reprises, ça ne veut pas dire il a prié 1, 2, 3. Non. Il a prié comme il devait prier, comme il le fallait. Il a prié. Et en priant ainsi, le Seigneur lui a répondu. Peut-être qu'il a prié la première fois, le Seigneur a répondu, mais comme il y a la convoitise, comme il y a notre désir à nous, on dit, mais Seigneur. Et je pense que la 3e fois, quand il a prié, il a dit, bon Seigneur, je veux que tu fasses ta volonté. Et là, il a été disposé à recevoir la réponse du Seigneur, à entendre la réponse de Dieu qui n'était pas celle qu'il attendait, qui n'était pas une réponse qui l'a fait plaisir, mais il a fait ce travail-là dans la prière. Et parfois, Dieu permet des échardes, des difficultés. Parfois, c'est l'enfant qui est malade, une maladie récurrente parfois. Un problème, on a fait tous les examens, parfois ça passe. Il y a des accalmies, ça revient. Ça passe, ça revient. Et le but de Dieu à ce moment-là, c'est qu'on puisse plier les genoux comme Anne. C'est qu'on puisse prier, dire comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, regarde la situation. Et quand on est dans cette attitude-là, lorsque Dieu va agir, on saura que c'est Dieu qui agit. On ne pourra pas tromper, on ne pourra pas même se tromper nous-mêmes. Parfois, on peut se tromper, dire, ah oui, vraiment, j'ai bien prié, j'ai été inspiré. Là, quand le Seigneur va agir, au fond de nous, on sait, là, il n'y a que Dieu seul. Amen. Là, telle que la situation a été, moi je connais la situation, telle qu'elle était, il n'y avait que l'intervention de Dieu qui pouvait faire quelque chose. Dieu permet des échardes pour que nous puissions plier les genoux, pour que nous puissions chercher sa face, pour que nous puissions faire un avec lui dans la prière. Non pas prier parce que je veux recevoir ceci, je veux cela. Mais prier en disant, Seigneur, je suis disposé à accepter ce que tu veux. Soyons sincères, moi le premier, on a du mal à faire cette prière-là. Parfois on prie, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais dans le cœur, c'est pas ça. Dans le cœur, c'est pas que ta volonté soit faite. Dans le cœur, on a notre propre volonté à nous. Mais le Seigneur permet des échardes pour que nous puissions faire comme Paul, que nous puissions prier, que nous puissions nous souvenir que notre Dieu est là. Que nous puissions fléchir le genou. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous parle pour ce qui n'a pas été dit ou qui a été mal dit, que le Seigneur nous aide à réaliser que les difficultés qui peuvent être l'épreuve, la maladie, parfois récurrente, les mauvaises nouvelles, les situations difficiles que nous vivons, parfois l'entourage qui nous fait souffrir. Et quand on pense à toutes ces choses, ça nous fait mal au cœur, que nous puissions nous souvenir que Dieu permet ça. Premièrement, afin de nous rappeler que nous ne sommes rien du tout. Parce que si nous étions quelque chose, on aurait pu régler la situation. Que nous puissions nous rappeler qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour tenir. Que nous puissions nous rappeler que nous devons prier, chercher la face de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui a été la réponse pour moi, Seigneur. Premièrement, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'exemple de notre aîné Paul, qui, Seigneur, a compris l'essentiel, Seigneur. Qui a compris que l'essentiel, c'est d'être avec toi, Seigneur. Même s'il arrive bien souvent que nous soyons en situation de faiblesse. Même s'il arrive parfois, Seigneur, que nous cherchions à nous rebeller, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, aujourd'hui. Ce que nous pensions que c'est nécessaire pour que nous puissions te servir. Toi, tu nous dis en réalité ce soir que si tu ne nous l'as pas donné, Seigneur, c'est que nous n'en avons pas besoin, Seigneur. Nous avons besoin de toi auprès de nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la joie. Tu vois, Seigneur, nous avons peut-être perdu la joie, comme ça a été le cas pour Anne. À un moment de sa vie, elle a perdu la joie, Seigneur. Mais elle a continué à exprimer son chagrin, Seigneur. Avec foi, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Là où il y a la tristesse, Seigneur, que tu mettes la joie. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci de nous rappeler, Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci de nous rappeler cela, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle et nous croyons que toutes les situations qui sont comme des échardes dans nos vies, tu permets cela afin que nous ne puissions pas, Seigneur, penser, Seigneur, que nous sommes forts, que nous puissions nous souvenir que nous sommes petits. Tu permets cela pour que nous puissions prier. Parfois, lorsque les choses vont très bien autour de nous, parfois, Seigneur, il nous arrive même de penser que nous n'avons même pas besoin de prier, Seigneur. Il nous arrive d'oublier même de prier parce que les choses sont tellement bien, tellement simples, faciles. Le compte en banque est rempli, les voitures sont en bon état, les enfants travaillent bien. Parfois, nous pensons que nous sommes bien organisés, Seigneur. Mais parfois, tu permets qu'il y ait une difficulté pour nous rappeler, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour ton esprit qui nous parle. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen.